Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et à l'occasion de la sortie d'un livre consacré à la Grande Synagogue de la Victoire, notre émission de ce soir va nous entraîner sur le pas des personnalités musicales qui ont marqué l'histoire de cette synagogue. Et comme à l'habitude, cette découverte sera rythmée par de nombreux exemples sonores. Et pour nous accompagner tout au long de ce parcours initiateur, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio le président de la Grande Synagogue de la Victoire, M. Jacques Canet, et le chef de chœur de cette même synagogue, M. Jean-Marc Thoron. Messieurs, je suis ravi de vous accueillir.
Mais nous aussi, Hervé, c'est très gentil de nous inviter. Merci beaucoup.
Alors, donc justement, Jacques Canet, que l'on vient d'entendre, vous venez de publier aux éditions Porte-Plume. C'est assez amusant d'ailleurs parce qu'un livre qui ne pèse pas un poids plume, hein, c'est un livre assez monumental dans tous les sens du terme, près de 3,5 kg. Plus de 500 pages, près de 500 pages richement illustrées, qui s'intitule donc « La synagogue de la Victoire, 150 ans du judaïsme français ». Alors ma première question est justement pour vous, pourquoi ce livre ?
Écoutez Hervé, ce livre est le fruit d'une longue réflexion que Félix Loeb, président d'honneur, et moi-même menons depuis quelques années à la synagogue. Nous pensions qu'il était important de retracer l'histoire de la synagogue de la Victoire qui va avoir 150 ans. Donc, ce livre avait surtout un objectif évidemment historique, donc de rappeler donc les grands moments historiques du livre, mais montrer également à quel point l'envie de construire un judaïsme français il y a 150 ans était encore d'une grande actualité. Et à la limite, au-delà d'un livre historique, ce livre est plus une sorte de livre politique, une déclaration de foi sur ce qu'est le franco-judaïsme et le franco-judaïsme consistorial. Donc voilà l'objectif. Et ce livre, en effet, sort cette semaine. Donc il va être en librairie à partir de début juin. Donc, cette émission tombe à point donc, pour parler du livre. Évidemment, histoire, ça veut dire architecture, ça veut dire également patrimoine musical, puisque la musique faisait partie du concept même de la création d'une grande synagogue, où il était impératif de montrer à quel point, à la population donc, française, les Juifs étaient parfaitement intégrés dans la société, donc la musique fait partie de ce patrimoine qui a été développé à l'époque.
Alors on va en parler tout de suite, mais comme vous le savez, bien sûr, notre émission est avant tout musicale, donc on va entendre tout de suite un premier extrait. Il s'agit de Véchamrou, chanté par Shalom Berlinski. On en dira quelques mots par la suite dans un enregistrement historique. Le chœur est dirigé par Jean-Paul Créder et on a donc Jean Bonfils à l'orgue.
Oh.
Nous venons d'entendre une très belle prière de Shabbat, Veshomru, composée ou arrangée. D'ailleurs, on en discutera avec Jean-Marc Thoron sur ces notions pas toujours claires de composition et d'arrangement, par Samuel Naumbourg, interprété ici par Shalom Berlinski dans un enregistrement historique qui date de la fin des années 70, qui a été remasterisé en 2004 et publié dans la collection Patrimoine musicaux des Juifs de France. Et un air très solennel, ça nous introduit donc à ce que vous disiez, Jacques Canet, que le livre que vous venez de publier, donc consacré à la synagogue de la Victoire, 150 ans d'un judaïsme français, là on est dans une musique qui effectivement est très occidentale, et dans ce livre, vous l'avez dit, il y a énormément de sujets traités, l'histoire, l'architecture, enfin c'est un livre richissime, des biographies bien entendu, mais alors pourquoi avoir donné une telle place à la musique? Parce que je vous avoue, vous avez fait appel à moi et je vous en remercie, ça m'a permis de passer quelques semaines passionnantes dans les archives du Consistoire pour retrouver des traces de cette musique, de son évolution à travers le temps. Et c'est pas moins de 30 pages que vous m'avez donné la chance d'écrire pour ce livre. Alors pourquoi une telle importance? Pourquoi la musique?
Rappelons-nous que le concept d'une grande synagogue à Paris est né au milieu du Second Empire. Et c'est Napoléon III donc, qui souhaitait honorer et remercier la communauté juive de son intégration et de la qu'elle avait pris au développement économique de la France à l'époque. Donc le concept de cette synagogue a été envisagé. Donc alors il fallait montrer, et en particulier dans ce quartier de la Victoire qui était un peu la défense de l'époque, c'est-à-dire c'est le quartier en développement dans tous les domaines, c'est-à-dire à la fois au plan des entreprises, les banques, les compagnies d'assurance, c'était dans ce quartier de l'opéra, c'est le quartier des théâtres, c'est le quartier de l'opéra, et évidemment Haussmann avait été consulté pour que dans ce quartier en développement, on construit cette synagogue qui a été bâtie sur un terrain appartenant dans le passé à la famille impériale. Donc c'est montré à quel point Napoléon III souhaitait construire et honorer la communauté juive de l'époque. Et évidemment, je dirais, quand on parle d'intégration, à l'époque, on est dans une explosion culturelle à l'époque de Napoléon III. La musique fait partie de la façon dont le Paris doit rayonner et tous les plus grands musiciens sont à Paris. Et la musique ne pouvait être qu'un des éléments constitutifs de cette volonté donc de créer une grande synagogue. Et on a travaillé énormément, je dirais qu'à la limite, les concepteurs de la synagogue de l'époque et le consistoire ont davantage travaillé à l'élaboration d'un culte et d'une liturgie que l'architecte Altdorf lui-même. Donc il y a eu de nombreuses réunions, des commissions qui se sont créées pour voir quel type de musique est-ce qu'on va jouer, comment est-ce qu'on va créer une liturgie française juive. Donc tout le monde y a collaboré. Donc évidemment, ça, vous allez en parler, vous en parlez parfaitement dans le passage que vous avez écrit pour nous. Et je vous en remercie. Donc il faut savoir que on peut dire que pratiquement depuis 1830, depuis Offenbach, qui a été le premier chef de la musique, même si ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré qu'une année, le consistoire, à l'époque, voulait que les plus grands compositeurs travaillent à l'élaboration d'un culte synagogal, de façon à ce que lorsqu'on invitait les personnalités politiques ou économiques à l'occasion soit de cérémonies privées, soit de cérémonies publiques, les invités ou les participants à ces cérémonies se sentent à l'aise chez eux. Donc, alors c'est vrai, on a pu reprocher à cette culture musicale d'être très très proche d'une liturgie chrétienne, mais ça n'a rien à voir. En réalité, elle puise ses racines à la fois dans la culture musicale rhénane, mais également dans la culture musicale contadine et dans la culture musicale portugaise. Et à l'époque, le rite ou la musique telle qu'elle a été voulue a été bâtie sur ces trois piliers.
et même elle puise aussi dans la culture musicale occidentale, la culture musicale française. Voilà, bien évidemment, on l'entend avec cette version pour orgue, pour chœur. Ici, on avait un chœur mixte. On verra cette question du chœur très, très prochainement. Alors, juste pour nos auditeurs, rappelez que la synagogue de la Victoire a été inaugurée donc en septembre.
Elle a été inaugurée en septembre 1874 et ouverte au public en 1875. Voilà. Mais le concept et le début des réflexions et des travaux à la fois sur l'architecture et sur la musique ont démarré dès 1865. C'est pour ça qu'on parle de 150 ans. Donc,
tout à fait. Et c'était l'époque encore du Second Empire.
C'était le Second Empire.
Alors on va entendre tout de suite un deuxième extrait musical. Là on va passer dans la modernité, dans le culte à la Victoire aujourd'hui, puisqu'il s'agit du Premier ministre officiant Aaron David Ayoun, qui chante donc ici avec le chœur de la synagogue de la Victoire, dirigé par Jean-Marc Thoron, qui est dans ce studio même. Il chante un superbe kaddish que nous allons entendre de suite. La prière de Kaddish, interprétée ici par le chanteur Aaron David Ayoun, et le chœur de la synagogue de la Victoire, dirigé par Jean-Marc Thoron. En 2011, apparemment, il s'agissait d'un concert, je crois, Jean-Marc Thoron.
Oui, absolument. Et là, on a fait un grand écart. On est passé de...
C'est pas bien de faire un grand écart.
C'est l'époque bénie, que je qualifierais de bénie, celle de Berlinski, où vous avez entendu un chœur mixte, avec une qualité. Alors, c'était le Véchoméru fait partie de l'office du vendredi soir. Donc, vous imaginez un vendredi soir entendre ça, c'est exceptionnel.
Faut dire quand même aussi que les conditions d'enregistrement sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que dans l'enregistrement de Berlinski, c'est un enregistrement pour un disque, alors que là, on est en live, on est une prise, et on a toujours cette difficulté avec la liturgie juive en général, c'est qu'il y a beaucoup d'interdits qui font que l'on ne peut pas enregistrer dans les conditions du direct, les offices où il y a une ferveur souvent. Donc on est obligé un petit peu, à part certaines fêtes, de reconstituer l'atmosphère. Je vous ai coupé la parole, mais je vous en prie.
Non, c'est vrai que c'est un vrai problème pour nous de faire cette musique. Comment on l'a fait pour les fidèles? A priori, on se dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à force, les aînés passants, on aimerait avoir une trace plus précise de ce qu'on fait, en fait. Parce que si on ne se met pas dans un studio pour enregistrer, et ben, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de source. Et voilà.
Donc, on lance tout de suite un appel à cette radio. Ceux qui voudraient aider la synagogue de la Victoire pour faire une espèce d'anthologie de tous les airs de la Victoire.
On a besoin de vous.
Voilà, absolument. Alors, je vais vous poser une question un peu personnelle ou des questions un peu personnelles. Mm-hmm. Ça fait combien d'années que vous dirigez le chœur de la synagogue de la Victoire? Et puis, je vais poser toutes les questions, comme ça, après, vous choisirez à celles auxquelles vous voulez répondre. Pardon. D'abord, comment on devient le chef de chœur de la plus grande synagogue de France? Parce que c'est quand même le cas. vous avez en plus un parcours assez original. Je crois que vous n'êtes pas juif, si je ne me trompe pas. Et pourtant, vous connaissez mieux que quiconque la liturgie ashkénaze. Alors, vous avez dû étudier pendant des années une espèce de masochisme, ce qui fait qu'en fait, vous êtes quand même juif, puisque vous êtes un chef de chœur formidable. Vous connaissez tout le répertoire. Vous êtes venu récemment à l'Institut européen des musiques juives. Vous avez pointé tout ce qui n'allait pas. Alors là, vous connaissez tout. Donc, comment on en arrive à ça? Parlez-nous un peu de vous.
Vous allez voir que c'est une banalité. C'est mon père. Mon père, qui était chanteur, qui chantait à la synagogue de Neuilly, comme soliste dans les mariages, qui un jour, moi étant moi-même chanteur, fait entrer. Donc je chante dans la synagogue depuis 1984, donc ça fait 33 ans. Et ça a duré jusqu'en 2006, ou 2004 en fait, où les hasards ont fait que j'étais attablé avec un ancien de la synagogue, non-juifs comme moi, ils sont nombreux, c'était M. Pichon, des gens qui ont fait 44 ans, plus de 40 ans de leur vie, que j'ai vu prier, que je vois prier. Voilà. Donc c'est ces bizarreries, ces étrangetés de gens qui ont une spiritualité, et voilà, qui la trouvent. Et on m'a demandé à l'époque de diriger, je l'ai fait pour rendre service, et j'ai tout de suite refusé, en disant « c'est pas ma place ». Je ne me sens pas autorisé, je ne me sens pas le droit, j'ai envie de dire. Et j'ai aidé des gens à essayer d'y être. Et ça n'a pas fonctionné. Et si vous voulez, c'est après que je me suis mis au service, j'ai compris que ce n'était pas moi. C'était d'être au service de fidèles d'un répertoire.
Mais c'est presque un apostolat, ce que vous nous dites là. C'est...
Mais oui, mais qu'est-ce que je voulais que vous dise, c'est la vérité. Parce que c'est vrai que si j'ai chanté si longtemps, c'est que j'étais touché par la qualité. Quand je parle de qualité musicale, la qualité des gens. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu des qualités humaines, je fais référence à Monsieur Attia par exemple, je ne pense pas que j'aurais fait ce pas-là. Mais quand on est guidé, parce que c'est ça que j'ai été guidé, j'ai été par un maître, pour moi, il n'y avait pas de problème, c'était que du plaisir, c'était que d'être au service. Et j'aime servir.
Eh ben écoutez, c'est magnifique. Encore, comme on dit chez nous, jusqu'à 120 ans de service. Voilà. Et alors, là, je m'adresse peut-être à vous deux, Jean-Marc Thauron ou Jacques Canet, mais qu'est-ce qui fait la spécificité du culte musical de la Victoire? Est-ce que c'est l'ampleur du chœur, c'est vrai aujourd'hui, qu'on trouve plus beaucoup ailleurs? Est-ce que c'est la solennité des cérémonies religieuses ou la présence de l'orgue encore pour les cérémonies officielles? Qu'est-ce qui fait que... En quoi le culte à la synagogue de la Victoire est-il différent des autres cultes, comme on dit?
J'aimerais faire la suite de ce que disait Jacques Canet tout à l'heure, par rapport à la musique rhénane et Offenbach. On vient d'entendre un kaddish qui est de Bevismark, qui vient de Londres. On fait un Yisgadal qui vient des États-Unis, que M. Canet connaît très bien aussi. Et on fait Rossi, qui est italien du XVIIe siècle, même s'il est né à la fin du XVIe siècle, et le rite portugais, et ainsi de suite, pour dire que, voilà, c'est que le rite français de la Victoire, il réunit tout ça.
C'est une synthèse,
et bien
en
d'autres
fait.
Encore. Voilà,
oui,
c'est
tout
ça.
À fait.
On a parfois tendance à dire la synagogue de la Victoire est une synagogue ashkénaze. Donc, évidemment, la façon de prononcer l'hébreu pendant les offices est... Ashkenaz rhénan, c'est-à-dire alsacien, parce que cette synagogue est culturellement d'origine alsacienne. Mais le répertoire musical tel qu'il a été voulu à l'origine et tel qu'il a vécu ensuite est un répertoire très composite, je dirais, qui réunit justement toutes les tendances de la musique juive qu'on chantait et qu'on chante toujours en France. Donc...
Très bien. Alors, vous avez parlé d'Adolphe Attia, votre maître, Adolphe Attia, qui a été jusqu'à peu de temps encore le premier ministre officiant de la Grande Synagogue de la Victoire. On va en parler. Je vous propose de l'écouter tout de suite dans un très beau morceau, Keva Koras, qu'on chante à Rosh Hashanah, avec le chœur Mizmor, qui était dirigé à l'époque par Maurice Ben Amou.
Thank you.
Un extrait de Kevakoras de Rosh Hashanah, interprété ici par le chœur Mizmor, dirigé par Maurice Benhamou, on en reparlera, et avec bien sûr Adolphe Attia. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. Donc on a entendu Shalom Berlinski tout à l'heure, on a entendu Aaron Ayoun et maintenant Adolphe Attia. Je dirais que nous avons la chance, et peut-être c'est le privilège de l'âge, d'avoir traversé donc, toute cette époque. Berlinski, de la fin des années 70, moi c'était, je me rappelle, mon mariage donc, avec Shalom Berlinski. Ensuite, on a traversé des années, des dizaines d'années avec Adolphe. On a là des musiciens. C'est-à-dire, ce qui fait la force de cette liturgie, c'est que Berlinski, Attia et Ayoun, et bien évidemment dirigé par le responsable de la musique consistoriale qui est Jean-Marc, nous sommes en présence de vrais musiciens. Et les fidèles ne s'y trompent pas. Donc, venir aux offices et se raccrocher à la prière au travers de la musique est l'un des objectifs de la musique. Donc, alors ça peut dans certaines autres cultures paraître étonnant, mais je dirais que c'est la musique qui crée le ciment. Donc, et quand on entend à la fois Berlinski tel que, alors bien sûr avec des chœurs mixtes puisque ce sont des enregistrements, donc on n'a pas fait ça dans la synagogue, mais je dirais que ça représente pour nous vraiment une émotion, et vraiment je vous en remercie Hervé d'avoir passé ces trois extraits très différents mais qui montrent la richesse, je dirais, de la musique dans un lieu de culte comme celui-là. Ici.
Alors justement, j'allais dire que le culte de la victoire repose finalement sur trois piliers qui sont plus ou moins présents évidemment dans toutes les synagogues, mais fondamentaux à la victoire. C'est un, l'excellence donc des ministres officiants, et ça on peut vraiment dire que être ministre officiant à la victoire, c'est un aboutissement pour beaucoup de chantres. Hein. Le travail discret mais toujours essentiel du chef de chœur, et bien sûr la qualité des compositeurs et arrangeurs du répertoire liturgique. Alors, on va écouter justement, puisqu'on évoque des noms, malheureusement cette émission serait trop courte, il faudrait qu'on en consacre une dizaine pour évoquer toutes ces personnalités.
Oui, d'accord.
Oui, on va y songer. Alors, on a parlé donc évidemment des chefs de chœur. Je voudrais qu'on entende un enregistrement historique dans un air que tout le monde connaît. Il s'agit du Kol Nidre. L'enregistrement a été réalisé par Léon Algazi, qui a été directeur de la musique. On va en parler, mais qui était engagé déjà comme chef de chœur à la synagogue de la Victoire dans les années 33 à peu près, et il a enregistré ce Kol Nidre en 1933. Alors la distribution est magnifique. On a le chant donc Léon Gerber, Joseph Blumberg et Émile Katzmann déjà, avec accompagnement notamment à la harpe Lili Laskin, à Géant Alain Lorgue. Enfin, voyez, et la direction était assumée par Léon Algazi lui-même.
Yeah.
un extrait de Kol Nidre dans une version historique de 1933, ce qui explique les grésillements, donc interprétés ici par les solistes. On ne sait pas exactement lequel, d'ailleurs, ce n'est pas indiqué, si c'est Léon Gerber, Joseph Blumberg, Emil Katzmann, je ne pense pas, dirigé par Léon Algazi. Et il faut noter que l'arrangement, tout le monde connaît l'air traditionnel de Kol Nidre, mais à chaque fois, il y a un arrangement. Là, c'est l'arrangement qui est signé de Algazi lui-même. Et ça nous amène sur la question du chef de chœur, puisque Algazi était chef du chœur. Les chefs de chœur sont souvent aussi des arrangeurs. Jean-Marc Thoron, c'est pas simplement, ils se contentent pas simplement de diriger, ils sont obligés sans arrêt de retoucher un petit peu le répertoire, je suppose.
Oui. Vous oubliez de dire quelque chose que tout le monde sait, mais que j'aime rappeler, que Kol Nidre, qui est cette prière d'introduction de ce marathon de Kippour, c'est un moment, alors voilà, moi je ne sais pas, magique, extraordinaire, où on sent dans les débuts de tout ce qu'on a entendu là, qu'il y a quelque chose qui commence qui est très humble, mais très profond. La passion vient, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qu'on entend. Voilà, ça je voulais dire ça.
Je peux vous interrompre
pour... Allez-y, Jacques Canet.
Le Kol Nidre qu'on vient d'entendre est très très beau, parce que d'abord il est historique, il est très lyrique, mais je pense que le même chanté aujourd'hui, donc tel qu'il est chanté par nos officiants, souvent encore à Dolfatia bien sûr, à Aaron Ayoun, et avec le chœur qui est composé exclusivement d'hommes depuis maintenant une quarantaine d'années, je trouve que le Kol Nidre actuellement est beaucoup plus émouvant que dans sa version plus lyrique.
Alors, me permettez d'intervenir, là je porte aucun jugement bien entendu, mais ce qui me semble intéressant dans ces enregistrements historiques, c'est que finalement à l'époque de Algazi en 1933, on chantait avec des chœurs mixtes, oui, c'était tout à fait admis. En fait, il y a eu sans arrêt des variations un petit peu dans la façon d'accompagner cette liturgie. Au départ, on est vraiment dans des chœurs pour hommes et enfants, les voix aiguës étant chantées par des enfants. À la victoire, à la création de la victoire, il y avait l'effectif, normalement, c'était, alors ça va vous faire rêver, Jean-Marc Thoron, il y avait 28 ans, oui, c'est ça, 28 enfants de chœur et 12 chanteurs répartis par 4, donc 3 voix, 4 basses, 4 barytons, etc., 4 altos. Et 28 enfants de chœur qui chantaient les voix de soprano. Alors, c'était peut-être pas toutes les cérémonies, mais c'était énorme. Et puis, donc, par la suite, après la guerre de 14-18, il y a eu des problèmes pour recruter des enfants. Déjà, il y avait aussi des problèmes pour recruter les hommes. Et donc, le consistoire a accepté l'idée émise à l'époque par Jules Franck remplacer, en tout cas de joindre aux enfants des voix de femmes pour un petit peu étoffer la matière vocale, et progressivement donc les femmes se sont substituées aux enfants. On a eu donc une période de chœur mixte entre 1919 jusqu'à à peu près alors la fin des années 60, début des années 70, on va dire, ça dépend des... 68 pour le début, mais en fait dans les mariages on a encore eu un peu après, enfin voilà, ça a continué. Et puis, disons au début des années 70, on revient à des chœurs, alors des chœurs d'hommes je crois, hein, Jean-Marc Thoron.
Oui. Alors, mon rêve était pour être encore plus grand que ça, parce que moi j'ai vu des programmes de mariage où c'était 50 enfants.
Ah oui, alors
50 enfants. Donc on n'imagine pas. Là, voilà. Et c'est malheureusement dû à une dénatalité au début du XXe siècle qui était nationale, qui était générale, qui fait qu'il n'y avait plus assez d'enfants. Donc on ne pouvait plus assurer les services, j'imagine. Il a fallu l'apport des femmes pour pouvoir y contribuer.
Et puis il y a aussi le fait que la démographie juive a changé, c'est-à-dire que le quartier originel dans lequel il y avait des juifs dans le 9e, progressivement, après-guerre, les juifs ont été plutôt ailleurs, et surtout les écoles, en fait. Les enfants venaient des écoles.
Oui, les enfants venaient des écoles.
Et c'était plus compliqué.
Les écoles, tout à fait. Donc,
voilà.
Question, Hervé. Excusez-moi.
Rapidement, parce que le temps passe très vite.
J'ai parlé de Bruno tout à l'heure, vous m'aviez posé, c'est par rapport aux arrangeurs. Oui. Les arrangements étaient faits par les différents chefs de chœur, directeurs de musique, en fonction de l'époque, en fait. Mm-hmm. C'est ça qui faisait un peu la spécificité, c'est qu'on doit s'adapter à notre époque, aux fidèles, à la demande, au goût général, et ça fait que ça évolue toujours. Même si c'est parfois les mêmes morceaux qu'on interprète, parfois j'ai du mal à les reconnaître, tellement on les sent, on les vit différemment.
Alors, on va entendre un morceau enregistré par, encore une fois, Adolphe Fatia, un chœur magnifique de Adirea Yomo Adoshem Eller, donc prière du matin de Rosh Hashana, de Samuel David, qui a été directeur de la musique des temples, mais aussi chef de chœur et aussi arrangeur et compositeur. On en entend donc un extrait de ce chœur. Un extrait de cette très belle prière Adirea Yomo Adonai Meller. Alors, je vois Jacques Canet qui veut la parole, donc je lui donne, interprété par Adolphe Fatia ici.
Alors, je voulais rajouter un mot à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que le culte reposait sur trois pieds, donc les chazanim, le chef de chœur et les compositeurs, mais je dirais qu'il repose sur un quatrième pied.
Alors,
le quatrième pied, c'est le rabbin de la synagogue. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que finalement, tous les rabbins successifs de la Victoire, donc et moi j'en ai quand même connu pas tellement, mais j'en ai connu quatre, ont tous été convertis à la musique. C'est-à-dire que, qu'il s'agisse du grand rabbin André Chekroun, donc pendant des années et des années, ensuite le rabbin Braca, puis Gilbert Naïm, et depuis 8 ans le rabbin Sebak, ce sont des rabbins qui, à l'origine, n'avaient pas conscience à quel point la musique pouvait être un des éléments patrimoniaux et un des éléments essentiels du culte. Et aujourd'hui, ils sont tous, enfin, ils ont tous été, je dirais, des défenseurs et à la limite des illustrateurs de cette musique. C'est la preuve que la musique a sa place dans le culte et c'est pas simplement un objet de décorum. Donc,
absolument, c'est un élément fédérateur, on le sait au niveau des traditions. Les fidèles vont dans les synagogues, ils se reconnaissent musicalement, ils ont besoin d'être baignés dans ce bain musical. Jean-Marc Thoron, est-ce que vous pourriez très rapidement, est-ce que vous connaissez le nom des chefs de chœur qui vous ont précédé? On a parlé bien sûr, alors on a parlé des directeurs de la musique, on a parlé de Samuel David, je donne juste deux dates, de 1870 à 1895, ensuite il y a Jules Franck, 1895 à 1937, et Léon Algazi, donc de 1961 à 71. Et puis, vous y êtes, mais il y a eu aussi d'autres chefs de chœur avant vous, je crois.
Oui, et c'est bien de faire la distinction entre directeur de la musique et chef de chœur, parce que le dernier directeur de la musique était Léon Algazi. Maurice Bédamou, de sa propre bouche, m'a appris très récemment qu'il n'était pas, il n'avait pas le titre, à proprement dit, de directeur de la musique. C'était responsable de la musique, chef de chœur. C'est plus ce rôle-là, dans le sens où il n'y a plus de commission musicale. Et j'ai oublié votre question.
Et donc, vous avez parlé, il y a eu Maurice Benhamou, qui avait travaillé, je crois, peut-être déjà avec Léon Algazi, il me semble.
Oui, bien sûr.
Il y a eu qui après ? Il y a eu Georges Terrier.
Georges Terrier et moi-même.
Et vous arrivez, et ça fait maintenant des années que vous prenez en charge voilà, ce chœur. Je reviens vers vous, Jacques Canet, pour dire que vous avez eu l'intelligence de considérer effectivement que la musique était un élément important fédérateur de cette synagogue, et vous avez fait appel à l'Institut, et je vous en suis encore aujourd'hui reconnaissant, pour recenser, numériser l'ensemble des archives musicales de la synagogue de la Victoire. Je crois qu'il y a eu un début d'incendie qui a aussi motivé votre, cette décision.
En effet, tout a
failli partir en fumée.
Oui, il y a quelques années, on a eu un incendie qui a pris juste à côté de l'orgue dans lequel, à côté duquel on a des locaux dans lequel étaient classés, on peut dire, 200 ans d'archives musicales, pas uniquement de la Victoire, mais du consistoire. Donc, et là, j'ai eu très, très peur. Donc, on a tout de suite décidé donc, d'une mesure de sauvegarde. Et on s'est adressé donc, à vous de façon à d'abord répertorier et ensuite numériser de façon à sauvegarder ces archives qui sont très, très importantes. Alors, on a de tout dans ces archives. On a à la fois des cérémonies de mariage, le culte synagogal des grandes fêtes, à toutes les époques, donc 200 ans d'archives musicales. Donc, et à cette occasion, on avait retrouvé, rappelez-vous, le programme de la première à Paris du concert sacré de Bloch, donc, qui avait été donné en 1936.
Oui,
ou 1936.
On entendra un extrait tout à l'heure.
Donc on a retrouvé ce concert, donc ensuite on a redonné ce concert 75 ans après à la synagogue.
Alors, donc, un travail qui a été effectué par l'Institut européen des musiques juives. On va juste citer le nom de Martha Stellmacher, qui était une jeune musicologue qui a fait un travail formidable durant plusieurs mois. Elle a recensé pas moins de 2300 partitions, registres, programmes musicaux, et tout a été numérisé, presque 90 000 pages. Donc, c'était un travail très conséquent, un travail de sauvegarde qu'on peut aujourd'hui consulter, au moins partiellement, sur le catalogue Rachel, qui figure sur le site de l'Institut européen des musiques juives. On va entendre un sixième extrait du psaume 100 de Fromental à Lévy, on en dira quelques mots, donc interprété ici par Michel Heinemann. D'un disque intitulé « Liturgie juive traditionnelle, chant de mariage », donc interprété ici par Michel Heinemann. Il faut dire que cette liturgie provient également, enfin, c'est la même, on l'appelle parfois la liturgie alsacienne ou alsace-lorraine, je crois qu'elle provient aussi d'Allemagne en fait, c'est la même liturgie d'Europe de l'Ouest, d'Europe occidentale. Et ici, donc c'était un air de Jacques Fromental à Lévy, qui est né en 1799 et mort en 1862, pour vous le situer, Grand Prix de Rome, qui a composé notamment le célèbre opéra « La Juive » en 1835, et ce qu'on connaît moins, un Mima Makim, ou un De Profundis en hébreu, qui avait été commandé à l'occasion de la mort du duc de Berry en 1820, et c'est d'ailleurs la première partition, une commande nationale, enfin une commande même à l'époque plutôt royale, et la première partition qui a été éditée. Et Fromental à Lévis a participé pendant de nombreuses années à ce renouveau du culte consistorial en siégeant donc dès 1851 dans la commission consistoriale du chant liturgique.
Alors, il était le beau-père de Bizet, si j'ai bonne mémoire.
Absolument, en plus.
Georges Bizet. Ouais.
Alors, on a comme ça des compositeurs qui ont participé à ce renouveau donc, de ce répertoire, qui ont composé des pièces. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms de compositeurs, Jean-Marc Thoron, que vous faites encore, par exemple, aujourd'hui chanter?
Eh bien justement, je trouve que ce qu'on a entendu de Fromental à Lévis n'était peut-être pas la meilleure partition qu'il ait faite. Moi, je pensais au Minamé de Sarre qu'on fait pendant le ballet, les trois fêtes, que tout le monde peut venir écouter à l'occasion des fêtes de Chavouette qui commencent demain.
Alors, il faut l'enregistrer parce qu'on ne l'a pas trouvé dans la discographie.
Qui est une merveille, qui est un bijou, qui est vraiment une écriture. On sent le talent d'Alévis à travers ce morceau. Et on joue tout. Alors, ce qui fait qu'un morceau perdure ou qu'un musicien continue à être joué, entendu, j'ai envie de dire, c'est les fidèles. Ce qui fait que quelque chose traverse les années, traverse les époques, c'est un peu mystérieux. Parce que c'est pas parce que c'est Monsieur Alévis ou Monsieur, je veux dire, que ça perdure. C'est parce qu'il touche, parce qu'il aide à prier, c'est parce qu'il évoque quelque chose, il nous entraîne. Et à ce moment-là, c'est ça qui fait la qualité des. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une question à laquelle j'ai pas vraiment répondu, c'est par rapport aux arrangements. Je ne fais plus d'arrangements. J'ai trouvé que c'était trop difficile d'être jugé parti. J'ai commencé à faire ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de beaucoup trop difficile. Et donc, maintenant, je vais faire ça par d'autres personnes. Et je vais citer Blam Souffant, qui maintenant est quelqu'un qui...
Qui est l'organiste, je crois.
Voilà.
Alors, le temps passe très vite. On me fait signe, il faut absolument qu'on accélère. Donc, on va entendre tout de suite de Jules Franc, qui a écrit un guide de l'officiant assez fondamental pour conserver les traditions, notamment de la victoire. On va entendre un extrait de Onotovo, interprété par Shalom Berlinski. Un court extrait de Onotovo, donc de Jules Franck, interprété par Shalom Berlinski, toujours dans le double album Shalom Berlinski, La Voix de la Ferveur. Alors Jacques Canet, en deux mots, aujourd'hui la victoire, la musique, c'est comment ?
La musique, d'abord, c'est une sorte de vocation de la commission administrative de maintenir le patrimoine, donc parce qu'il est, c'est notre responsabilité de faire traverser les époques et donc de maintenir le patrimoine. Et nous demandons néanmoins, il faut s'adapter, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, il faut évidemment s'adapter au goût du public, donc des fidèles. On est amené à introduire progressivement un certain nombre d'autres partitions, d'autres musiques. Et là, c'est toute la difficulté. Donc, et je crois que c'est, il faut en remercier Jean-Marc d'arriver à concilier des airs anciens que l'on veut maintenir, mais également des interprétations plus contemporaines, voire plus modernes. Donc, avec le chef de chœur et entre le chef de chœur et le Hazan, il doit y avoir une complicité qui font que cette mayonnaise doit prendre et évoluer en permanence. Donc, voilà. Donc c'est ça notre rôle, à la fois de maintenir le patrimoine, mais de rester dans l'actualité et dans la demande des fidèles. Parfois avec une certaine fermeté, parce qu'il ne faut pas non plus tomber uniquement dans le folklorique. Donc l'objectif n'est pas de tomber dans le folklore. Donc on essaie de maintenir une certaine dignité musicale qui correspond au cadre.
Alors, je vous remercie vraiment. J'avais prévu de vous faire entendre un extrait du service sacré de Bloc, mais je pense que ça va être trop juste. Donc, je recommande à tout le monde d'écouter le service sacré de Bloc, notamment Adolphe Attia, on a fait une très très belle version. Est-ce que vous pouvez nous dire, Jacques Canet, où est-ce qu'on peut se procurer ce très beau livre que vous venez de publier ?
Écoutez, ce livre est disponible évidemment à la synagogue depuis cette semaine et dans les librairies, dans les meilleures librairies à partir de la semaine prochaine, donc début juin. Donc, et évidemment dans toutes les librairies de tous les musées, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, au mémorial de la Shoah. C'est un très lourd, c'est un livre en effet qui fait plus de 3,5 kg, qui nous a pris plus de 3 ans de travail.
Donc, et on le trouve à quel prix juste pour
Il est à 85 euros.
Voilà, alors on va en parler sur le site de l'Institut européen des musiques juives également, on vous donnera toutes les références pour le commander. Messieurs, nous allons devoir
arrêter. Nous ferons un grand lancement officiel du livre début septembre, donc à la synagogue, avec justement une part de concert dans laquelle Jean-Marc va illustrer l'évolution de la musique.
Alors, on en reparlera peut-être voilà. À ce moment-là. Je vous remercie infiniment, donc Jacques Canet, Jean-Marc Thoron, d'avoir accepté de participer à cette émission.
Merci à vous.
Je vous en prie. Remercier. Et donc, vous pouvez la retrouver cette émission, je rappelle à nos auditrices et auditeurs, que vous pouvez la réécouter ainsi que toutes les précédentes sur le site de l'Institut européen des musiques juives, dont je rappelle l'adresse, www.iemj.org, et bien sûr sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my